un nouveau rendez-vous de votre émission d'actualité sur Canal FM. Merci de votre fidélité au Club de la Presse. Notre profonde gratitude à ceux qui nous écoutent fidèlement sur Radio Lumière à Néro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niantougou et Radio Courtoisie à Dapaon. Sans oublier ceux qui nous reçoivent partout dans le monde à travers nos différents canaux digitaux et via les radios Ibn et les Bénins. Derrière la baie vitrée, vous avez Thomas Ete Kossi d'ATV pour la mise en onde, Jero Akucha à la mise en ligne. Sans oublier David Agbouati qui assiste les techniciens ce matin. Le panel de ce jour est composé de Eric Johnson du journal L'Union. Bonjour Eric.
Bonjour Fousseni, bonjour chers confrères. Bonjour, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Godson Ketomagnan, du journal du quotidien Liberté. Bonjour, Godson.
Bonjour, mon cher. Bonjour, chers confrères. Et nos salutations aux auditrices et auditeurs.
D'accord. Nous espérons, Eric Johnson, du journal... Nous espérons plutôt Isidore Akolor, du journal Actu Express, et Ambroisine Memédé, de l'agence de presse Savoir News. Et puis, nous avons un invité surprise que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. Moi-même, je me nomme Fousseni Saïb. Voici le débat. Je vous parlais à l'instant d'un invité surprise. Salam alaikum, cher invité.
Assalam alaikum, shalom, good morning, guten tag, ndi, bon kozo, ainsi de suite, Fousseni Saïb.
D'accord, vous l'avez deviné par sa voix, c'est bien Innocent Sasgao. Ça, vous avez manqué à vos auditeurs, particulièrement à Madame Essi.
Mais je ne vous cache pas que c'est un plaisir, voire un honneur, de sentir que j'ai manqué à des gens. Mais c'est vous plutôt qui m'avez beaucoup manqué. Ce studio, l'ambiance, l'atmosphère... La chaîne de solidarité qui passe par les confrères invités au studio, les techniciens et les millions sans doute d'auditeurs de par le monde. Vous m'avez manqué et en même temps vous m'avez soutenu et vous avez beaucoup contribué à ce que je sois de retour dans ce studio. Et merci de me faire l'honneur de jouer à l'apprenti. À l'apprenti invité. Avant que dans les jours à venir tu me replaces dans ton fauteuil et puis tu permettras également que je salue tes invités de ce jour.
Oui,
Eric Hugues Pakoudjo, Godson Ketomagna et puis une dame qui me fuyait et que tu as fait ramener et qui va revenir dans la ligne. Il s'agit de Ambroisine Memédé. Ambroisine, bonjour.
Le micro ne marche pas.
Personne.
D'accord, allez-y. Maintenant, ça marche.
Je disais, je ne te fuyais pas. Et tu es d'ailleurs la première personne à qui j'ai tendu la main.
Oui, c'est pour dire que Fousseni a permis une sorte de réconciliation en Brésil. Et c'est reparti pour un foyer qui durera longtemps.
Très longtemps.
Vous allez vous taire, je veux dire. Ce qui était émouvant en Brésil, quand elle est rentrée, elle te voyait parler, mais j'ai comme l'impression qu'elle n'a pas su que tu étais en direct. Et tu vois, c'est cette émotion-là de te retrouver qui a fait qu'elle te saluait même pendant que tu parlais. Vraiment, c'est dire que tu as manqué à beaucoup de personnes.
Oui, absolument.
Mais Dieu est grand, tu es de retour. On pense que ce sera véritablement définitif.
Merci. Et Fousseni le permettra, comme Eric a dit, Dieu est grand. En toutes choses, quand nous nous réveillons le matin, ayons un regard pour Dieu, quelle que soit la forme dont nous l'adorons, quel que soit le nom que lui donnons, ayons une pensée pieuse envers Dieu. C'est lui qui nous maintient le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la santé. Et ensuite, nous complétons avec la liberté d'aller devenir. Je rends grâce à Dieu de retrouver ce studio. Je remercie du fond du cœur certaines personnes dans le corps médical et toute la chaîne de solidarité qui a été et qui est toujours omniprésente à mes côtés. Vous connaissez, vous toutes et vous tous, et seulement à ma chère épouse et à mes filles qui ont été vraiment l'élan, qui ont constitué l'élan qui m'a remis en selle. Je vous dis à toutes et à tous, merci du fond du cœur. Et c'est la parole d'un innocent, le seul innocent depuis Jésus et Mahomet.
Je suis innocent aussi.
Alors, je voudrais dire, hein, tu as parlé enfin de façon générale, mais moi, je vais citer un ami, un ami qui t'apprécie énormément. Il s'agit de Ousmane Nachamba, qui, pas plus tard qu'hier soir, a encore demandé de tes nouvelles. Il m'a écrit, il a demandé si tout allait bien, comment tu te portais, et il voulait en savoir un peu plus. Et je lui ai dit, ça se va bien, par la grâce de Dieu. Et il a avancé sa prière. C'est pour dire merci à Ousmane, hein, qui est un de tes fidèles auditeurs.
Merci. D'accord, je ne voudrais pas faire de jaloux, mais à Ousmane, je dis à Tiché, en bon à nous, faut qu'il ait. Et puis à la chère dame, et si je suis de retour pour la suite, Papa Sibiti et tous ses auditeurs, toutes ses auditrices, rendons grâce à Dieu que je suis de retour dans ce studio.
Amen. Bienvenue. Nous espérons vous céder la place très bientôt. Très bientôt.
Dieu le voudra et si vous le voulez aussi.
Oui. D'accord. Isidore Akolor nous a rejoint. Isidore, bonjour.
Bonjour, Fouseni. Bonjour à l'invité surprise. Bonjour, confrères, consoeurs en studio et bonjour à toutes et à tous. Et bientôt, vous allez ranger vos clics et vos claques.
Absolument.
Quand la clé au propriétaire.
D'accord, merci à vous. Innocent Sass Gawa, déjà présenté, Ambroiside Mehmede, du journal, du site en ligne, plutôt de l'agence de presse Savar News. Rebonjour, Ambroiside.
Bonjour, Fouseni. Bonjour, chers confrères. Bonjour, ça, c'est un plaisir de te revoir.
Plaisir vraiment partagé.
Bienvenue à toi.
D'accord, la culture est encore au rendez-vous ce mardi dans le journal L'Union lit Prix Ivoire 2023 qui succédera au Togolais Sami Tchak. Eric Johnson, le titre du Togolais est mis en jeu à cette édition.
Oui, cette nouvelle édition qui est le 15e prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone et qui sera décerné le 25 novembre 2023 à l'Eden Golf Hôtel d'Abidjan. Et donc, il y a au total 56 ouvrages en provenance de 14 pays qui sont en compétition. Et donc, ce prix qui est présidé par Michel Kofi, du comité de sélection, est composé également de critiques littéraires comme Florence Apo, Serge Gras, Kofi Kofi, ainsi que Henri Nkounou. Donc, ce 15e prix attend le 14e attend de passer la main au 15e. Donc, le 14e qui n'est autre que Sami Tchak, le Togolais, et qui a remporté le prix littéraire 2022. Donc, ce prix qui est créé depuis 2028 fait beaucoup de fierté.
2008.
Donc, ça fait la fierté des écrivains francophones africains. Et donc, je crois que ce prix-là, le 25 novembre prochain, connaîtra son aboutissement.
Vivement que son successeur soit un autre Togolais ou une Togolaise, n'est-ce pas? Nous avons plein de littéraires, n'est-ce pas?
Oui, bien
sûr. D'écrivains, je veux dire.
Oui, oui, mais encore qu'il faut que qu'il soit sélectionné, qu'il soit nominé d'abord, d'accord, avant de pouvoir participer. Donc, vivement, je crois que prochainement, nous publierons la liste des 56 ouvrages qui sont en compétition.
D'accord. Le Togo poursuit sa marche vers l'actualisation de sa politique culturelle. C'est ce qu'on lit sur le site de Savar News. Ambroise Memédé, l'adoption du Ambroise Memédé, voilà, l'adoption du dernier document de politique culturelle du Togo remonte à 2011. Et 12 ans après, le texte connaît une réélecture.
Oui, les autorités togolaises avaient lancé une phase de collecte de données. Et ces données qui ont été actualisées les 30 et 31 août, et les résultats issus de cette analyse permettront de renforcer la stratégie nationale et pour faire de ce secteur, le secteur culturel, je veux dire, moteur de un levier de développement économique. Vous savez que la culture, ce que c'est aujourd'hui, chaque pays essaie de se positionner sur ce plan pour attirer vers lui le maximum de touristes. Au Togo, l'année 2021 a été marquée par la visite de touristes, une vague de touristes sur le territoire togolais. Il y a eu 983 000 touristes qui ont visité le pays contre l'année 2021 qui n'a connu que 481. On ne va pas dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut applaudir de façon... Mais quand même, on fait des pas. Mmh. Et les pas que nous faisons sont des pas qu'on peut citer. Et donc, voilà ce qui a été fait et sur le plan national dans le domaine du tourisme. Mmh,
d'accord. Et puis, première édition du Festival de l'Inde, célébration de la culture indienne au Togo. Lit-on sur Savar News.
Effectivement, cette édition du festival est une sorte de brassage également sur le territoire entre peuples indiens et togolais. Espace d'échange culturel, d'éducation, de divertissement. Mmh. A été marqué par des ateliers éducatifs, dégustation de mets indiens. Je ne sais pas si vous avez jamais dégusté un mets indien.
Jamais.
Donc voilà, il y a eu de la musique et avec la présence de notre Almoc national et de notre artiste indien. Il y a une collecte également de fonds à l'endroit des enfants du Togo. Donc, c'est des moments de partage qui ne font que renforcer les liens et ce brassage qui permet d'aller à l'école de l'autre culture, de connaître l'autre à travers sa culture, ce qu'il mange, ce qu'il fait, de quelle musique il danse. Et voilà, c'est que de bons moments.
D'accord. D'accord. Alors, nous poursuivons avec un article paru dans le quotidien Liberté de ce mardi. Abandon d'employés en difficulté, titre le journal. Un agent en mission déposé en prison, quatre autres fessés par les FDS dans l'indifférence de Handicap International. Alors, Godson, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire?
Merci. Beaucoup de choses à retenir. D'abord que désormais, tout citoyen employé dans une structure, dans un organisme, peut se voir administrer des fessées sans que sa structure ne réagisse. Il peut même être déposé. Parce que de quoi il s'agit? C'est une mission de 5 agents qui devraient effectuer un travail au nord du pays. Et si un ordre de mission leur a été donné, ça voudra dire que l'organisme prend en charge et assure la sécurité de ses agents. Et il se trouve que dès le lendemain, le groupe a été arrêté et conduit dans les locaux de la gendarmerie au nord du pays. Et après interrogation, on a d'abord relaxé 4 autres pour garder un 5e au motif que il a des démêlés avec la justice, il doit expliquer. Mais alors, au lieu que ce soit juste une garde à vue, dès le lendemain, on l'a déposé en prison. Pour les 4 autres qui ont eu à quitter la gendarmerie pour retourner à Dapon, je pense, ils ont été rattrapés en chemin. Parmi eux, il y avait même une femme. Et d'après nos informations, on les a fessés. Nous avons essayé de prendre la tâche avec la responsable de Handicap Togo qui s'est contentée de nous dire que pour le... Elle a juste parlé du cas de celui qui a été déposé. Et tenez-vous bien, 3 jours après qu'il a été déposé, on le rejoint en prison pour lui faire savoir qu'on résilie son contrat de travail. Comme si il pouvait mourir, mais handicap continuerait de vivre. Et nulle part, elle n'a fait cas des 4 autres qui ont été fessés. Finalement, on se demande, est-ce de cette manière que quand une structure recrute des citoyens, elle doit se comporter envers eux? Et pourtant, il existe un contrat de travail. Le fait est que la dame a voulu se réfugier derrière la période d'essai. Comme si, quand on vous recrute et que vous décédez dans l'exercice de votre travail, pendant la période d'essai, la structure n'a pas d'engagement envers vous. C'est assez triste. Et il serait intéressant que chacun essaie de savoir ce qu'il en est pour que les autorités fassent ce qu'il faut afin que ça ne se répète plus.
D'accord. Ça se fait réagir.
Oui, Fousseni, tu permets. Le commentaire que je viens d'écouter de Godson suscite en moi 2 réactions, voire 2 interrogations.
D'accord.
Le premier point, c'est que Handicap International, c'est une ONG qui a quand même une certaine crédibilité, certaine expérience dans le monde et qui a pignon sur rue dans notre pays ici, le Togo. Alors, si Handicap International ou bien Handicap Togo envoie ses agents en mission munis d'un ordre de mission et que ces agents ont des démêlés avec les forces de défense de sécurité, ça pose un problème. Est-ce que c'est l'ONG qui a péché quelque part ou bien est-ce que c'est les éléments de sécurité qui ont commis un abus, un excès d'autorité? Le second point, c'est que Godson disait que c'est des agents de l'ONG Handicap munis d'un ordre de mission. Donc je suppose qu'ils ont un contrat de travail et qu'un agent envoyé en mission qui a des problèmes, qui est arrêté et détenu et que depuis la prison, son employeur demande à résilier le contrat de travail, ça pose un problème de validité de contrat de travail et cela devra interpeller chacun de nous individuellement, mais également nos organisations patronales et syndicales sur la valeur des contrats de travail que nous avons avec nos employeurs.
D'accord, merci. Isidore Akolor.
Oui, Fousseni, excuse-moi, je n'ai pas la police de l'émission. Moi, j'aurais souhaité que vous nous donniez la parole sur les sujets culturels qui ont été partagés.
Ah, d'accord.
Sur lesquels moi, je voulais réagir et avant d'aborder
d'autres sujets.
Le sujet en question. Si vous permettez, aujourd'hui, on dit que le tourisme prend de l'envol, à en croire notre consoeur Ambrosine. Je me pose encore beaucoup de questions. Quand on parle de tourisme, il faut parler d'industrie culturelle. Est-ce que nous en avons au Togo? Nous ne sommes plus dans les années 80, dans les 70-80, où les touristes débarquaient, et j'en faisais partie du lot des guides touristiques à l'époque. Et au sous-plan...
Finalement, il a tout fait.
Poursuivez, Isidore.
Rosplan qui débarquait, qui venait de l'hôtel Tropicana et déposait les touristes aux environs de 8h30, 9h au Grand Marché. On faisait le tour de Lomé. Et banalement, à chaque fois, vous avez 5000 francs dans la journée. Et bon, à l'époque.
Avant l'évaluation. Oui.
Avant l'évaluation.
Allez-y.
Oui, mais j'en fais.
Poursuivez.
Donc, à l'époque, vous voyez des milliers de touristes qui venaient au Togo. Et le tourisme concurrençait même CTMB et les phosphates en matière de contribution et de part de contribution au budget national. Mais aujourd'hui, comme disent, et quand vous allez dans nos villes de l'intérieur, je m'en donne pour preuve la fois dernière quand on était à Sokodé, il n'y a même pas de site pour abriter des sites d'accueil, n'est-ce pas? Au moins promouvons
le tourisme national, le tourisme en interne. Mais seules deux villes ou trois au Togo puissent accueillir Palimé, Atapame et Kara, qui ont des structures d'accueil dignes de ce nom. Si vous voulez faire des séminaires, c'est les trois villes. En dehors de ça, si vous allez à Tapaon, mais vous souffrez. À Néron, n'en parlons plus. Alors que c'est un site balnéaire touristique de haute gamme. Donc voilà autant de questions que moi je me pose. Qu'on dit des milliers, bon, ça à l'époque c'est une semaine, hein, c'est un mois même. Vous allez voir des touristes débarquer à Lomé. Bref, je ferme cette parenthèse.
D'accord, revenons sur le sujet.
Alors, je voudrais juste ajouter un truc qui est très important, c'est que c'est par rapport à l'afflux de touristes qui arrivaient au pays que les autorités avaient décidé de construire des hôtels dans chaque ville de notre pays. Aujourd'hui, tous ces hôtels-là sont complètement dans un état de délabrement avancé. Et c'est dû à la mauvaise gestion et au pillage des ressources de notre pays. Il faut l'avouer. Et donc, le ministre du tourisme et de la culture, docteur Lamadokou, a fait une tournée nationale la dernière fois pour constater de visu ce qui se passe dans nos hôtels publics. Ma foi, ce qu'il a remarqué et les consignes qui ont été données. Et là, aujourd'hui, il est sur la sellette avec les directeurs ou je ne sais pas, les responsables de ces hôtels qui ne veulent pas partir alors qu'il y a une mauvaise gestion flagrante de cette structure d'accueil.
D'accord. Revenons maintenant pour sortir du sujet de liberté.
Je ne dirais pas plus que ça avait dit. Il y a violation du droit du contrat de travail. Ce n'est pas normal. Il faudrait que Handicap International puisse se ressaisir, résilier le contrat à un employé, et fût-il en essai, dans une détresse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir qu'on puisse instiger à justice cette organisation internationale, cette région internationale, et pour ne pas laisser les Togolais à la merci de ces ONG et soi-disant internationales.
D'accord. Eric, vous avez un mot?
Oui, par rapport aux ONG, je crois que à l'heure actuelle, il y a un nouveau test qui a été voté à l'Assemblée nationale par rapport au travail de ces ONG là sur le territoire national. Et donc là même, pour leur coopération avec le gouvernement, il y a une obligation nouvelle qui est faite à ces au préfet pour pouvoir gérer les ONG. Ça veut dire que ce problème là qui a été posé, logiquement, on pourrait commencer par gérer ça déjà dans la préfecture où ça se passait. Et donc, le préfet pourrait intervenir parce que c'est l'autorité locale représentant l'autorité centrale. Et donc, je crois que ces ONG-là doivent désormais respecter les tests en vigueur dans notre pays. C'est par rapport à ces comportements que les autorités ont été obligées de faire voter un nouveau test. D'accord. Et j'avoue que ça n'a pas été du tout facile, puisque les ONG ont répliqué. Ils ont même eu un délai qui finissait au mois de mars, le 6 mars, je crois. Et ils sont allés voir le ministre de la décentralisation pour dire quand même leur mécontentement par rapport à certains articles de ce texte. Mais si ces articles-là étaient vraiment respectés, on n'aurait pas eu ce cas.
D'accord.
C'est très important de le soulever. Et je crois que ces ONG-là, dans d'autres pays, sont complètement... On les renvoie, hein, on leur dit, par rapport à ces comportements, vous ne pourrez plus continuer par exercer sur notre territoire. Handicap International, tout le monde doit quand même connaître cette ONG-là.
C'est une grande ONG, une institution internationale.
Oui, et ça se l'avait dit tout à l'heure, bien connue, et qui a pignon sur rue. Hein. Mais quand il y a des comportements de ce genre-là, il faut que les autorités interviennent. De quelle manière on peut prendre des individus qui sont en mission, les embastiller et tout de suite envoyer une résiliation de contrat? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que ce n'est pas une manière de ne pas payer ces gens-là quand on a trouvé une faille dans leur comportement pour les envoyer là et résilier rapidement les contrats.
D'accord. Ambroisine Emédé, réaction?
Eh bien, moi, c'est déplorable. C'est déplorable qu'on en arrive à ces situations et vivement qu'on puisse accéder à avoir une intervention de Handicap International qui puisse nous dire clairement ce qui s'est passé. Cela nous édifiera plus sur ce qui s'est passé. Mais tout de suite, je dis, ben, fessé, moi, ça me gêne un peu.
Une femme.
Ça me gêne.
Le groupe.
Ça me gêne un peu. Je ne sais pas si dans les moyens de correction dont dispose la police, il s'est inscrit. Fessé, moi, ça me gêne. Ça me gêne vraiment. Et quand on parle de garde à vue également, il y a un certain nombre de temps.
Là, c'est important parce que cela relève de la violence, voire même de la torture. Et il n'y a pas longtemps, notre pays, le Togo, a adhéré au traité international de lutte contre toutes les formes de torture. Alors, même si un agent a des démêlés, encore qu'il est en mission pour son employeur, une ONG internationale, alors qu'on arrête l'agent et que les éléments des forces de défense de sécurité en arrivent jusqu'à fesser l'employé et qu'il puisse être une dame, cela mérite au minimum une enquête pour nous situer sur les responsabilités de chaque partie dans cette affaire.
Le Togo n'a pas fait que ratifier. On a voté une loi rendant imprescriptible
les tortures dans notre législation nationale.
D'accord. Alors, nous parlons effectivement genre à présent. Le journal L'Union s'est intéressé aujourd'hui aux résultats de la mise en œuvre du budget sensible au genre. Exécution du budget sensible au genre 2022. En 2022, titre le journal. Le meilleur et le moins bon score des six ministères pilotes. Eric Johnson, nous voulons en savoir davantage.
Effectivement, c'est en 2001 que le Togo a choisi de pratiquer le budget sensible aux genres et l'expérimentation a débuté en 2022. Et il y avait six ministères pilotes. Je peux citer le ministère du Développement à la base, le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques de l'artisanat, le ministère de la Santé, le ministère de l'Action sociale, et le ministère de l'Agriculture et le ministère des Travaux publics. Donc, c'est les six ministères pilotes ce choix du Togo de pratiquer le budget sensible aux gens. Alors, à mi-parcours, après six mois, on a fait une pré-évaluation et qui montrait qu'il n'y avait que celui des ministères qui était en avance, c'était le ministère de l'enseignement primaire secondaire qui avait fait à peu près 43% à mi-parcours. Logiquement, quand on dit mi-parcours, ça veut dire qu'on devait être déjà à 50%. Et malheureusement, aucun ministère n'atteignait les 50%. Alors, l'évaluation a été faite encore après un an, en fin d'année. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a un ministère, qui est le ministère des Travaux publics, qui est dirigé par une femme, qui a fait 100%. En réalité, il y a des indicateurs qui sont placés et il y a des projets dans la pratique du genre qui sont mis là pour pouvoir évaluer ces différents ministères. D'accord. Et donc le ministère des Travaux publics a fait 100%. Et ce ministère est suivi par le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère de de l'enseignement primaire et secondaire, technique et de l'artisanat, et enfin le ministère du développement à la base. Mais au cours de l'année, on a eu quand même à ajouter encore deux ministères, et ça faisait au total 8. Et aujourd'hui, pour l'année 2023, il y aura au total 12 ministères qui seront évalués par rapport à la pratique du budget sensible aux gens.
D'accord, nous avons une seule femme ici, nous allons lui donner la parole pour avoir son avis. Ambroisine Memédé.
Alors,
le genre n'est pas que féminin. Hein.
Oui, oui.
Ah,
oui.
Et, le genre n'est pas que féminin.
Elle est en minorité. Elle est en minorité.
On fait souvent cette confusion.
Oui, elle est en minoritaire ici, donc on lui donne la priorité.
Je suis un peu gênée quand on parle du genre et directement on dit bon, la femme, et
voilà.
Je suis un peu gênée. C'est des deux côtés.
Des deux côtés, d'accord.
Et je dois avouer que des efforts se font, des efforts se font pour permettre à ce qui est. À défaut, bon, j'ai du mal à parler d'égalité, genre. Moi, je parle beaucoup plus d'équité.
Et là, d'accord. Dans ce cadre, c'est l'égalité, l'égalité.
Bon. D'accord. Godson?
Oui. Parler de budget en relation avec le genre est une chose. Mais encore faut-il que ceux qui nous écoutent comprennent en fait ce que c'est un budget lié au genre. Si Eric peut saisir cette opportunité pour Eric. En parler, puisque c'est lui qui a écrit. Parce que moi personnellement, je me dis que un budget sensible aux gens par rapport à ce qui, aux défis qui nous attendent, on peut avoir des budgets sensibles à beaucoup d'autres choses. Et quand on dit que le genre, ce n'est pas seulement en relation avec la femme, aujourd'hui, ce n'est plus l'homme, il y a les autres aussi. Et donc, budget sensible aux gens. Je ne sais pas si c'est une trouvaille qu'on pourra laisser tomber peut-être au fil des années, mais il faut qu'on explique concrètement ce que c'est.
D'accord, il faut qu'on dirige les gens vers le journal de Eric Johnson.
Oui,
tout est détaillé dedans.
Oui, le problème, oui, le problème que soulève cette thématique, quels sont les critères d'évaluation? Est-ce que c'est le nombre de femmes qu'on utilise dans un secteur qui détermine les critères d'évaluation, là, on a tout faux. Dans ce cas, on a tout faux. Parlons plutôt de la promotion de la gente féminine que de parler du genre.
Pourquoi?
Oui, parce que le genre, ça concerne aussi les hommes. Et
en quel sens
Poursuivez. Nous sommes tardés par le temps. On va aller rapidement.
Et aussi les LGBTQ. Si on veut aller dans le genre, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont ni féminins ni masculins.
Des gens qu'on maîtrise
même
pas.
Oui,
mais déjà,
c'est très sensible ce sujet.
Ce n'est pas dans notre constitution.
Eric,
notre constitution, quand on parle du genre, c'est la gente féminine.
Non, là c'est grave.
S'il vous plaît.
Là c'est grave.
S'il vous plaît, Eric, poursuivez.
Oui, je crois que là, ce dont il s'agit, c'est la gente féminine. On ne parle pas du genre en allant vers des gens qui se transforment. N'est-ce pas? Parce que notre constitution n'accepte pas encore ce type de personnage.
Quittons le débat.
Oui.
Quittons le débat,
s'il vous plaît.
LGBTQ. Revenons au genre féminin masculin. Quand on parle du genre, y compris aussi le genre masculin.
Alors, d'accord, merci à vous tous.
Parlons simplement,
simplement
de la promotion de la compétence dans le domaine au niveau des femmes.
D'accord.
Voilà. Quand il y a une compétence disponible, alors moi, je mise sur la discrimination positive.
La discrimination positive,
d'accord.
Vis-à-vis de la femme.
Si y a la compétence, elle est là. Il faut l'exploiter. Il faut l'utiliser.
Oui,
voyez-vous.
D'accord.
Aujourd'hui, les femmes font beaucoup de choses. Et donc, s'il y a de la compétence, il ne faut pas hésiter.
Il faut l'exploiter.
À promouvoir la femme.
À promouvoir.
Peut-être ça se pose sur le sujet.
Ce que dit.
Oui, Eric, rapidement.
Le budget sensible aux gens,
oui.
C'est la mise en œuvre des politiques et des projets, programmes et projets hein, en faveur de l'équité et de l'égalité de genre.
Des gens, d'accord.
C'est ce que ça veut dire.
Finalement, nous sortons avec ça.
Non, je voudrais juste dire que je comprends l'intérêt que cela suscite, mais je voudrais nous inviter plutôt à l'article du journal.
Oui.
Le journal écrit « Exécution du budget sensible au genre en 2022 ». Le meilleur et le moins bon score des 6 ministères pilotes. Peut-être qu'Éric aurait dû commencer par là où il a terminé.
Les critères.
En instituant l'angle sous lequel il a abordé le sujet. Et les priorités que le gouvernement se fixe dans ses ambitions.
Pour on va sortir rapidement de ce sujet.
Je voudrais qu'on en sorte maintenant, qu'on étende, parce que durant ce mois où je suis resté à la maison, j'ai suivi systématiquement les journaux parlés sur Radio Lomé à 6h et 19h et la TVT à 20h. Et vous aurez remarqué que depuis un bon moment, les journaux sur Radio Lomé et la TVT commencent toujours par les projets et les efforts du gouvernement dans ces différents domaines.
Oui.
Le genre, après vous verrez l'inclusion financière, il y a également les réformes économiques, l'amélioration du climat des affaires, les pistes rurales, le désenclavement des zones de production agricole du Togo profond, comme nous aimons le dire ici au Club de la Presse. L'adduction d'eau, l'électrification, l'éducation, la santé et l'accès universel aux soins de santé. Alors, tous ceux qui suivent les journaux sur Radio Lomé et sur la TVT, donc vous aurez constaté que ces deux médias font un zoom sur les programmes et les projets du gouvernement. Maintenant,
c'est tout à fait normal.
Quant à l'évaluation, est-ce que les fruits de ces réformes, de ces programmes et projets confirment la promesse des fleurs. Là, le débat peut toujours rester.
Le débat continue.
Nous sortons du sujet. Que Radio Lomé et TVT fassent l'apologie des actions du gouvernement, c'est une très bonne chose.
Le mot a changé.
Nous sortons du sujet.
À chacun son mot.
Oui, s'il vous plaît. Nous sortons rapidement de ce sujet.
Le sujet m'intéresse à plus d'un titre. Parce que il faudrait qu'on revoie encore les critères d'évaluation de cette promotion genre. Si on n'arrive pas à cerner le contour du genre, on a tout faux.
D'accord, le débat continue. Le débat continue.
Si je devais expliquer, à chaque fois on me dit tu prends trop de temps, il faut essayer.
Promotion de la femme.
Oui.
De toute façon, l'article est là.
La compétence.
Voilà, l'article est là. Donc, les auditeurs pourront aller lire.
Oui, c'est la direction générale du budget et des finances qui a publié ce rapport-là.
Non, je le donne.
S'il vous plaît, nous allons sortir de ce sujet.
Toi, tu n'as fait que relayer.
Je vous en prie.
Oui, maintenant.
Nous allons sortir du sujet rapidement. Alors, ça y est. Au Gabon, le nouvel homme fort a pris officiellement fonction comme président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, a prêté serment hier lors d'une cérémonie à Libreville, 5 jours après son coup d'État. Alors, Godson Ketomanyan, les choses sont allées très vite du côté de Libreville.
Bon. Tu sais, on parle de coup d'état militaire. Certains cherchent à décrédibiliser cette manière d'accéder au pouvoir. En temps normal, c'est ce qu'il faut. Ne jamais cautionner ce genre de méthode d'accession au pouvoir. Mais c'est comme de plus en plus, le chien va aboyer, mais la caravane passera. Du moment où on n'aura pas mis un frein à toutes les formes de coup d'État. Et donc, que le monsieur pèse serment est une bonne chose. Reste à savoir si on va consommer ce qui s'est fait au Niger aussi, parce que la politique du deux poids, deux mesures, de plus, grâce au smartphone, là, je ne finirai jamais de remercier la Chine
grâce aux smartphones qui ont été démocratisés, aujourd'hui le monde est entre les mains de chacun. Et si hier on se contentait juste de TV5, RFI et autres, aujourd'hui on finit de pas comprendre que en matière de conflit, les médias sont les l'information est d'abord la première victime. Et tout le monde cherche à s'informer par divers canaux et ça met mal à l'aise ceux-là qui ont des agendas et que beaucoup de citoyens ignoraient par le passé. Aujourd'hui, on ne peut plus servir n'importe quoi à la masse.
D'accord. Voilà. D'accord. Isidore Akolor, le général Nguema a prêté serment. Sa transition s'est mise en marche sans aucun obstacle. Oui. C'est ce qu'on peut remarquer.
Non, en fait, c'est cocasse, hein. Ce qui s'est passé hier, vous voyez quelqu'un qui dissout les institutions et remet en selle une institution qui va l'adouber. Mais posons-nous des questions. Et Tom Magnan est en train de dire quelque chose de très important. Il ne faudrait pas que l'Union européenne se comporte comme la courroie de transmission et des desiderata de la France. Vous avez suivi le commissaire européen qui disait que ce qui s'est passé au Gabon est différent de ce qui s'est passé au Niger, comme si ce n'était pas un coup d'État, ou comme si certains coups d'État peuvent être adoubés et d'autres condamnés. Ce n'est pas normal. Quand vous voyez, vous avez une petite notion sur le droit international, vous voyez que mais on est en train de bafouer tous les principes au gré des intérêts des Occidentaux. Moi, ça m'enchaîne ce qui s'est passé au Gabon. Et comme je l'avais dit, c'est un jeu de chaises musicales, c'est une révolution de palais pour pouvoir garantir les arrières des bongos. Ça, personne ne peut nous dire autre chose que ça. Et l'Union européenne s'est embourbée dans ça. Ça, c'est ce qui m'inquiète.
D'accord. Le général Nguema a prêté serment sur une charte de la transition, élaborée quand, par qui et comment. Est-ce que tout n'a pas l'air de quelque chose qui est préparé en avance, Eric Johnson?
Est-ce qu'il y a eu coup d'État au Gabon? Moi, je crois que dès le début, j'avais dit que c'était juste une manière de protéger un pouvoir, sachant très bien que la personne qui l'incarnait est gravement malade et pouvait tout de suite partir du jour au lendemain. Et il fallait juste... vous avez vu comment ça s'est passé? On n'a arrêté personne à part Ali Bongo et sa petite famille. Et donc, tout le monde était d'accord au départ de ce coup d'État. Et donc, les Européens, je ne sais pas, la façon dont ils ont réagi par rapport à ce qui s'est passé au Niger, ils se sont tout de suite calmés. Et ont même cherché à justifier l'injustifiable. Parce que pour nous, quand on parle de coup d'État, parce qu'il y a un renversement du pouvoir légitime. On a fait des élections et les gens n'ont même pas eu le temps de contester ou d'approuver le gagnant, les résultats. Et tout de suite, on nous dit que bon, voilà, par rapport à ce qui s'est passé, on a déchu un chef d'État, oui. Mais maintenant, la suite, c'est quoi? Quand il a dit qu'il allait prêter serment, je m'étais posé des questions pour savoir par rapport à quoi, puisqu'il a dissous toutes les institutions de la République. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y avait plus...
C'était la Cour constitutionnelle, voilà. Mais sans la présidente de cette Cour.
De cette Cour. Ça, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'institutions pouvant permettre à quelqu'un de prêter serment. Mais c'est ça qui a été fait. On dit une charte de la transition. Et donc, au Niger, il y a eu quoi? Nous tous, nous avons condamné ce qui se passe au Niger. Et là, on applaudit ce qui se passe au Gabon et même on la double. Et malheureusement, je crois que nous devrons chercher aujourd'hui à protéger les populations, hein, parce que dans tout ça, c'est les populations qui vont toujours en partir.
D'accord. Ça, et dans les pays où il y a eu des coups d'État, il y a eu des chartes de la transition, voilà, qui ont été élaborées après des consultations nationales. Mais au Gabon, c'est le contraire. C'est, en 5 jours, on a présenté une charte. On ne sait d'où ça vient. Non.
On t'a présenté une charte au Gabon? C'est... Non, ce que j'ai vu hier, oui, c'est ce que Eric vient tantôt de dire. Entre nous, est-ce qu'il y a eu coup d'État au Gabon? Parce que hier, à la prestation du serment, j'ai vu sur les réseaux, dans les médias, le gouvernement, le dernier gouvernement de Ali Bongo Ondimba, était là pratiquement en totalité. Il y avait le parti PDG, le parti de Bongo, qui était là en grande majorité. Presque tous les partis politiques du Gabon étaient là, sauf le principal challenger,
le candidat
qui prétend être le vainqueur.
Le vainqueur, voilà.
Mieux ou pire, quand il a annoncé avoir pris le pouvoir, le général Nguema a dit avoir dissous toutes les institutions. Il les a citées dans la Cour constitutionnelle. Et puis quelques jours après, il ressuscite la même Cour constitutionnelle sans son président ou sa présidente. Et il n'y a aucun décret qui nous dit qu'en l'absence du président ou de la présidente de la Cour constitutionnelle, la personne qui le remplace. Et c'est devant, c'est au cours de ce cirque-là que le général prête serment dans des envolées dithyrambiques qui prennent l'allure même de populisme. Non, est-ce qu'il y a un coup d'État ou bien est-ce qu'on ne nous montre pas une façon de garder le pouvoir en le retirant de la main de quelqu'un, mais que le pouvoir reste toujours dans la maison, dans le camp? Doit-on rappeler que le général... Et puis, il y a une question de principe. Un militaire qui fait un coup d'État et qui va prêter serment devant la Cour constitutionnelle, non, ça me pose un problème de principe.
On ne le fait pas.
Voilà, et puis, le général Nguema dit qu'il prête serment sur la charte de la transition, charte que personne n'a vue et dont personne ne connaît aucun détail. Donc, c'est un cirque et j'espère que ce cirque ne va pas finir de façon malheureuse. Et pour vous terminer, pour chuter, quand Eric se disait s'il y a un coup d'État au Gabon, ça me rappelle une anecdote. Suivez mon regard. Quand il y a quelques années, dans un pays, quelqu'un disait que son père lui avait conseillé de ne jamais perdre le pouvoir au risque de ne jamais le reprendre. Alors, n'est-ce pas des choses comme ça qui se jouent? À un moment, on a trouvé peut-être que Ali Bongo Ondimba ne pouvait plus être le porte-parole du pouvoir pour détenir le pouvoir au Gabon. Ok, un cousin général très proche reprend la chose. Alors, Ali, on le laisse se reposer et puis le pouvoir reste.
D'accord.
D'accord.
L'anecdote qui dit Satan donne pas la main droite et reprend pas la main gauche.
D'accord. Alors, les acteurs sociopolitiques gabonais semblent, dans leur majorité, s'aligner derrière les nouvelles autorités. Même les leaders de la plateforme d'opposition Alternance 2023, qui a porté le candidat Albert Ondo-Ossa, donc était présent. Alors, Albert Ondo-Ossa, ce dernier, qui continue de réclamer sa victoire. Alors, Ambroise Mémédé, de la manière dont les choses se présentent aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une cause perdue pour le candidat malheureux, si on peut dire?
Pauvre de lui.
Pauvre de Jean Ping, il y a 7 ans.
Voilà. Qui a compris et a dit que, bon, lui, il ne va pas se présenter. C'est une affaire familiale, C'est une affaire familiale, pour ne pas dire un coup familial. Un coup familial, et c'est déplorable. C'est déplorable qu'on en arrive à cette situation qui n'honore pas le continent. Et un coup d'État, bon, c'est une préparation bien ou mal faite, et qui est un gouvernement qui continue sous couvert. La la classe des bongos qui continue sous couvert, hein, je vais dire. Et ce qui est vraiment déplorable, c'est qu'on perd des ressources financières. S'il faut organiser des élections, dépenser, alors qu'on sait qu'en réalité, cela ne nous servira à rien. Je me demande, mais qui pour arrêter ces gens? Qui pour les arrêter? Qui pour arrêter ces situations? Qui aussi pour montrer à ces hommes qu'après la présidence, après le pouvoir, il y a une vie? Moi, je me disais, mais Bongo, à son âge et avec sa santé, moi, je me dis, mais cette situation va encore faire que sa santé va se dégrader. Moi, je le voyais en train de jouer du golf avec ses petits-enfants, voilà. Calmement, des trucs de riches, quoi, des trucs de... Mais là, vraiment, bon, je me dis... Et cette situation qu'on déplorait en Afrique de l'Ouest qui continue et qui s'avance, je me dis vraiment, il y a vraiment incertitude, il y a de quoi réfléchir réellement et taper du poing sur la table, se décider à changer les choses. Ce n'est pas normal que du jour au lendemain, on dépense pour des élections et quelqu'un se lève pour dire qu'il fait coup d'État et il prend le pouvoir. Ce n'est pas normal.
D'accord. Godson,
tu sais, moi, je...
Faites serment.
J'ai eu un éditorial hier, je crois, dans lequel je disais qu'en fait, il y a eu un coup d'État doux et un autre anticipé. En fait, c'est deux choses. Le doux, c'est le militaire qui prend la place de tonton Ali. Et l'anticipé, c'est on a fait un coup d'État à Ondo sans qu'il n'ait pris le pouvoir. On ne lui a pas donné le temps de venir avant. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et dans tout ça, c'est le petit Macron qui s'est donné de la voix quand il ne le faut pas et qui devenir atone quand il le faut, qui me fait pitié. Pas seulement à moi, mais à de nombreux Français. Tu as eu le bonheur d'être porté au pinacle plutôt que de sortir de pas ta jeunesse. Ton pays, des ornières, enfin, c'est triste, mais il a adoubé ce qui se passe au Gabon. C'est la preuve qu'il n'y a rien eu au Gabon. Ou alors, ce qu'il y a eu, c'est qu'on a devancé Ondo pour qu'il ne vienne pas
d'accord.
au pouvoir.
D'accord.
Voilà.
Je voulais juste terminer par une anecdote. D'accord. Je disais tantôt que durant ce temps que j'étais à la maison, je suivais méthodiquement Radio Lomé et TVT. Je vous ai dit leur reportage.
Ne pas dire que tu fais le monotonie. Oui.
Mais en même temps, j'ai fait un constat. Oui. Depuis une semaine, je mets au défi celui qui va me dire s'il a écouté Radio Lomé ou la TVT parler du coup d'État ou ce qui se passe au Gabon depuis une semaine. Pas un mot.
C'est pas
depuis
vrai.
Une semaine.
Ah, oui.
Pas un mot, ni sur Radio Lomé, ni sur le TVT depuis une semaine.
Oui. Embargo.
Alors que c'est l'actualité numéro un en Afrique. Ça doit poser des questions.
Ça, c'est d'accord. Je ne te crois pas.
Oui. En tout cas, je voudrais que quelqu'un me demande.
D'accord.
Et qu'on m'indique le jour et l'heure où Radio Lomé ou la TVT ont évoqué la situation sociopolitique au Gabon depuis une semaine.
D'accord. Merci à vous tous. Les choses évoluent du côté du Niger. Le régime militaire au pouvoir dans ce pays a annoncé jeudi 31 août la suspension de toutes les activités des ONG et organisations internationales des zones d'opération militaire. Autre information, les autorités militaires ont décidé d'ouvrir partiellement leur espace aérien aux vols commerciaux nationaux et internationaux, mais maintiennent l'interdiction aux vols militaires, opérationnels et autres vols spéciaux. Et puis, Ali Mahaman Lamine Zeyin, le premier ministre nigérien de la transition, annonce l'ouverture des discussions avec les autorités françaises pour un départ rapide des forces françaises du territoire nigérien. Alors, précisons que la population nigérienne a lancé depuis 4 jours d'intenses manifestations pour demander le départ des forces françaises du Niger. Alors, Niger, des échanges en cours pour que les forces françaises se retirent rapidement, lit-on sur Savoir News. Réaction, on va faire un tour de table. Isidore Akolor.
Non, on constate tout simplement que la junte nigérienne déroule son programme. N'en déplaise à la CDAO, à Macron ou à tous ces affidés, Union européenne et autres. Ils sont là, ils exercent le pouvoir. N'oublions pas, quand on dit que bon, il n'y a jamais eu de vide constitutionnel, hein, demander à tout constitutionnaliste, celui qui prend le pouvoir l'exerce et il assume. Que Macron dise que bon, c'est un pouvoir illégitime, il n'y a jamais eu de pouvoir illégitime. Tant que...
Si, Isidore, il y a des pouvoirs illégitimes.
Oui. Attention.
Isidore va terminer.
Tant que tu l'exerces, c'est un pouvoir de fait.
C'est un pouvoir de fait.
Le pouvoir de fait peut ne pas être légitime. Oui, bon, peu importe. C'est qui dessine la légitimité? C'est le peuple. C'est le peuple.
Pas des élections claires et transparentes.
Est-ce que c'est à Macron de juger un pouvoir légitime ou illégitime? C'est là, surtout la question.
D'accord.
Donc, quels que soient les coups d'État.
Vous sortez,
oui. Et nous ne sommes pas là pour faire l'apologie des coups d'État. Mais celui qui est là, que ce soit un pouvoir de fait, il exerce, il n'y a pas de vide constitutionnel.
D'accord. Eric Johnson.
Oui.
En quelques secondes.
Ce qui se passe au Niger, moi, je pense que ma réaction sera toujours la même, hein, et par rapport surtout à la population. Parce que quand vous fermez les frontières, et terrestres, aussi bien terrestres qu'aériennes, et tout ça... c'est le commerce, hein, c'est les finances du pays qui subissent un coup. On a tous vu ce qui s'est passé avec les tonnes d'oignons. Hein,
mais c'est la CEDEAO qui a pris l'embargo.
S'il vous plaît, Eric a la parole.
Non, si.
Eric, poursuivez.
Quand ils ont fait leur coup d'État, oui, automatiquement, mm-hmm, ils ont fermé toutes les frontières. Avant que la CEDEAO ne prenne sa décision.
Est-ce que ce n'est pas pour des raisons sécuritaires?
Oui,
parce qu'il y a une intervention militaire qui planait.
Pour des raisons sécuritaires, mais il faut voir aussi le développement du pays. Parce que quand on fait un coup d'État de ce genre, par rapport à ce qui se passe au Gabon, où tout va bien, le pays fonctionne normalement, hein, et personne n'est embêté.
Au désiderata des Européens.
S'il vous plaît.
Et donc,
sortez.
Au Niger, oui, ce qui se passe, c'est que l'économie subit un grand coup.
D'accord.
C'est tout ce qui me dérange.
D'accord, ça, quelques secondes.
Non, moi, foncièrement, je suis contre les coups d'État en ce 21e siècle, mais je fais le constat que les poutistes, hein, au Niger s'assument. C'est au moins un acte de courage.
D'accord.
Alors, il faut souhaiter que cela finisse plutôt bien et que
très rapidement
oui, et bien, et surtout que le peuple, le pauvre peuple nigérien, n'en paie pas le trop lourd tribut. C'est l'occasion d'en appeler à la solidarité africaine. Les pays voisins du Niger qui sont tous passés par des coups d'État hier ou il n'y a pas longtemps, il faut quand même savoir raison garder, aider le Niger à revenir dans le bon sens démocratique, hein, pour le bien de nous tous.
D'accord. Pendant ce temps, notre ambassadeur, enfin l'ambassadeur de la République française, reste cloîtré dans les locaux de l'ambassade à Niamey. Ambroisine Emédé, jusqu'où ira, hein, ce bras de fer entre Paris et Niamey?
Bien, il faut voir les choses sur le plan relations internationales. Ce que disent les tests, est-ce que l'ambassadeur, il est accrédité auprès de Bazoum, auprès de l'État nigérien. Il y a toutes ces considérations-là. Et moi, véritablement, je me dis, ben, le territoire appartient à qui? Et qui accrédite? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est l'État? Là se trouve la réponse à cette question-là. Et voilà, mais véritablement, les coups d'État ont apporté quoi à nos nations? C'est la question que je me pose. Quand on parle de coups d'État directement, moi, je pense aux femmes, on pense aux enfants, je pense à la population. Nous connaissons le Niger, qui est un pays où il y a une chaleur excessive. Et nous savons, après ces fermetures de frontières, ce que les gens ont vécu, les malades au niveau des hôpitaux, les denrées de première nécessité. Nous savons tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe autour de ces coups d'État-là. Oui, mais la question, est-ce que réellement ces coups d'État ont jamais apporté quelque chose de bon? Est-ce qu'un pays a pu dire qu'avec tel coup d'État, nous avons gagné telle chose de bien et sans casse?
Le Ghana.
Ambroisine disait que quand il y a un coup d'État, elle pense aux femmes. Alors je l'interpelle, Ambroisine. Les militaires qui font les coups d'État ici et là, ils sont nés des femmes et ils ont des épouses. Qu'est-ce que leur maman et qu'est-ce que leurs épouses et pourquoi pas leur fille adulte, qu'est-ce que toutes ces femmes-là autour des militaires leur disent avant qu'ils aillent
faire les choses? Il faut qu'ils écoutent également, hein, parce que nous on parle de la femme, viennent les hommes, hein. La femme elle est la racine qui porte toutes les branches et toutes les feuilles. Nous parlons, mais et ce sont ces mêmes femmes que vous battez entre griffes. Ce sont ces mêmes femmes que vous battez, que vous laissez affamer. Mais je ne veux pas dire que ces gens écoutent leurs femmes, forcément.
D'accord, merci. Nous sortons avec Dodson Kotomania. Quelques secondes.
Quand on dit qu'on bannit les coups d'État, entre celui militaire et l'autre constitutionnel, lequel est père et lequel est fils? Lequel engendre l'autre?
D'accord.
Concernant le départ des militaires, dont le Premier ministre et la France vont discuter, ça sera chose faite, qu'on le veuille ou pas. Seulement,
l'ambassadeur.
Je ne veux pas imaginer le visage du petit Macron. Comment il va s'y prendre?
C'est un chef d'État quand même.
Il a quel âge? Par rapport à moi. Comment il va s'y prendre pour rappeler celui-là dont il a dit qu'il ne va jamais quitter le Niger? Comment il va s'y prendre? Parce que les Français ne vont pas le lâcher. Déjà que sur le continent, on ne le lâche pas. Je ne sais pas si lui, si... Bref.
D'accord.
Qui s'arrange pour faire partie l'ambassadeur à l'insu de tout le monde.
D'accord. Merci, Godson. Nous marquons une pause et on revient.
Bah, dis donc, il fait très chaud dans ta voiture. Tu dois vraiment faire quelque chose pour la climatisation.
Tu sais que je ne connais rien à la climatisation. J'ai essayé un ou deux frigoristes. Mais comme tu vois, pas de satisfaction.
Appelle Baya Climatisation Auto. Ce sont des vrais spécialistes en climatisation auto. Ils diagnostiquent, réparent et recherchent la climatisation en moins d'une heure. Baya Climatisation Auto, boulevard Jean-Paul II, en face du stade de Kégué. Téléphone 70 23 88 88 ou 97 77 88 88. Jusqu'au 30 septembre, promotion chez Baya sur la recherche de climatisation à 10 000 francs CFA. Chez Baya Climauto, deux mots, satisfaction client.
Chez CCT Batimat, nous exigeons la qualité et la sécurité pour vous accompagner sur tous vos projets. Depuis plus de 25 ans, les câbleries du Sénégal transportent l'énergie au cœur de votre vie. Leurs câbles domestiques, industriels, aériens, torsadés, de moyenne tension ou sur mesure, sont conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001 et sont contrôlés quotidiennement dans leur laboratoire. LCS, c'est l'exigence qualité à votre service. Électricien, revendeur, installateur, vous êtes nombreux à leur faire confiance au Togo et dans 17 pays d'Afrique. Rendez-vous vite chez CCT Batimat, le fournisseur exclusif de LCS au Togo.
CCT Batimat, bienvenue chez vous.
L'Institut de formation Centrale Communication rénove sa formation pour la rentrée académique 2023-2024 avec ses 22 ans d'expérience en formation modulaire et pour seulement un an. Pour vous et pour vos enfants, l'Institut de formation Centrale Communication est le centre qu'il vous faut. Option 1, formation en électronique générale, électricité, réparation, flash, décodage, décime, blocage des GSM, smartphones et tablettes, montage des antennes paraboliques, montage des caméras de vidéosurveillance, des alarmes de maison et voitures, montage des panneaux solaires, électricité bâtiment, téléphonie filière et sans fil, technologie schéma et mesure essai des composants électroniques, programmation des panneaux LED. Option 2, formation en secrétariat bureautique, infographie, édition, généralité sur l'informatique, initiation à l'informatique, maîtrise du clavier, études, suite bureautique, pack Microsoft Office, Open Office ou LibreOffice, classement correspondance, traitement de test, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, initiation à la photographie. Option 3, formation en maintenance informatique et réseau, initiation à la bureautique, études de système d'exploitation, études sur les composants électroniques et les composants d'un ordinateur, réseau informatique, câblage et configuration, réparation, installation et configuration des appareils informatiques, le système Arduino, fibre optique.
Créée depuis 1990, l'École supérieure d'informatique, de business et d'administration, ECIBAV est membre de l'Agence universitaire de la francophonie. De la licence au master, ECIBAV vous propose des diplômes reconnus par l'État togolais et reconnus à l'international. Licence en transport et logistique, licence en management et économie du numérique, spécialité économie numérique, marketing digital, gestion de projets innovants, technico-commercial, licence en système informatique et logiciel, licence en réseau mobile et sécurité, licence en maîtrise des énergies renouvelables, licence et master en communication et négociation commerciale, licence et master en administration et gestion des ressources humaines, licence et master en finance et contrôle de gestion, master en informatique et réseau. Contactez-nous sur le 22 51 17 87 ou visitez notre site web www.esiba.tg. ECIBA Business School, l'expérience au service de l'éducation.
Gaiety Events présente Goodbye Holiday. Gaiety Event vous invite à table et à partager des moments précieux de joie et de gaieté pour dire au revoir les vacances. Goodbye Holiday, c'est ce 10 décembre 2023 dans le restaurant de l'Université de Lomé. Plusieurs acteurs culturels et aussi des chefs d'entreprise seront présents. C'est aussi un rendez-vous d'échange et de partage. L'atmosphère sera riche de couleurs musicales avec la prestation de Almok, c'est Weddy, Junior Semé, Ajeo Nami Bavo et l'orchestre La Gaieté. Prix d'entrée 30 000 francs solo, 55 000 francs couple. Place limitée. Pour toute information, contactez-le 90 63 32 78 ou le 97 13 30 34. Gaieté Event. Bye bye Holiday. Gaieté Event. Nous créons des souvenirs.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. GoAfrica Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
La SNB te surprend encore avec le grand jeu Capsule Jama. Du 15 juin au 15 septembre 2023, tente ta chance et gagne des lots incroyables. Rendez-vous dans ton point de vente préféré pour découvrir le lot dans la capsule de Jama Start Porter, Jama Pisner, Jama Laja, Jama 228 et Jama Panache. Maximise tes chances de gagner une voiture de marque BIC by Diwa, des moteurs électriques, des réfrigérateurs, des téléviseurs, bref, plus de 100 000 lots à gagner avec Jama.
Comment?
Je dis bien 100 000 lots à gagner.
Waouh!
Jama. Attention, ta bouteille gratuite est à retirer immédiatement dans ton point de vente préféré. Le règlement de jeu déposé chez le notaire de la SNB ainsi que les points de retrait des lots sont disponibles sur le site internet de la SNB et sur la page Facebook et Instagram de Jama. Avec Jama, on est ensemble.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
C'est le retour pour terminer en toute beauté cette émission. Nous ouvrons la ligne aux auditeurs. Allô? 22 21 33 74 22 20 19 68. Allô?
Oui, allô, oui, bonjour ça. Oui. Bonjour tout le monde. Oui,
bonjour.
Bonjour Eric.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, depuis les histoires de coup d'État là, celui que moi je vois constant dans ses analyses aujourd'hui, c'est Eric. C'est pas parce qu'il est mon ami, même si il a mis un peu de mon ce temps. Quant à moi, tout coup d'État condamné, que ce soit au Niger, que je sois au Gabon. C'est comme Sarkozy avait dit une fois, hein, l'homme africain n'est pas rentré assez dans l'histoire, on l'a critiqué. C'est la même chose qui se passe maintenant. Les militaires, là, c'est pas eux qui appuient les civils à se maintenir au pouvoir. Même ici, là, s'il n'y a pas les militaires, je pense que le régime serait là aujourd'hui. Donc c'est eux-mêmes les problèmes, les militaires d'abord. S'ils étaient des militaires, pareil. Qui savent qu'ils connaissent la place du militaire dans la société, je ne pense pas qu'il y aura ce truc. Quand le peuple se soulève, c'est eux qui matent. Regarde le monsieur là au Niger, au Gabon. Celui qui a partagé avec le régime, mais aide du camp du président. Il se lève aujourd'hui comme il est un saint. Nous, Africains, on les applaudit comme s'il est un sauveur. Non, rentrons dans l'histoire. C'est ce qui s'est passé ici en Soanto. On a fait un coup d'état. On a crié au Lincho. Les gens applaudissent, d'autres applaudissent. Aujourd'hui, on regrette amèrement. On regrette, on est en train de ressortir ces programmes, histoire de jeunesse, histoire d'économie CFA, agriculture, on est en train de dire ça aujourd'hui. C'est comme ça nos grands-parents, ils n'ont pas branché. Donc, sont conséquents avec nous. Si le pouvoir gabonais est aussi sincère, où est-ce qu'ils parlent les cultes de personnalité? Où est leur télévision? C'est comme si le monsieur était un messie. Oh, lui-même aussi, dans les histoires de corruption, il a une maison qui est payée aux États-Unis à près de 400 000 dollars à espèces. Pourquoi on ne parle pas de ça? Moi, je sais que je suis un coup d'État, que ce soit au Niger, que ce soit où il s'est condamné. Les militaires, leur place, ils ont les armes, ils n'ont qu'à les défendre le territoire. Ce n'est pas pour aller faire un coup d'État. D'accord. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Allô? 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 Oui, bonjour. Allô? Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
Patrick.
D'accord, on vous écoute.
Comment vous allez?
Nous allons bien.
Monsieur, ça fait là?
Il est là.
Ah, mon patron, mon commandant. Merci, mon commandant.
Respect partagé.
C'est comment?
C'est commandant, bientôt nous serons promus colonel. Et plus tard général. Mais pas pour faire des coups d'État. Hein.
Le de là.
D'accord, on vous écoute. On
okay. Vous écoute. Bon, je suis content d'abord d'écouter encore la voix de SAF. Et que ses vœux soient exaucés.
Amen.
Alors, pour revenir à l'émission là. Et en tout cas, moi, je fais aussi un constat. Je pense que la France n'est pas le seul État ou la seule nation qui a colonisé des pays en Afrique. Mais je me pose la question de savoir, depuis lors, pourquoi il n'y a pas ces blancs dans les colonies anglaises ou portugaises et que c'est la France. À quelque part, c'est-à-dire même si on dit qu'il ne s'est rien passé, la France n'a qu'à reconnaître qu'il y a quelque chose. Comme le disaient les gens là. Nous ne sommes pas contre la population. Hein. Rien, loin de là. Mais c'est la politique. Pourquoi elle est critiquée? Les autorités françaises n'ont qu'à se poser des questions. Si l'ambassade française a l'écoute là, posez-vous des questions. Pourquoi on n'accuse pas la Turquie? Pourquoi on n'accuse pas la Yougoslavie? Pourquoi on n'accuse pas l'Angleterre? Et pourtant l'Angleterre a des colonies, le Portugal a des colonies. Pourquoi c'est toujours vous? Mais changez, faites des sorties médiatiques pour situer les gens. Je sais que c'est vos parents, c'est vos arrière-parents qui ont semé du tort. Mais vous n'allez plus commettre les mêmes bêtises que ces arrière-parents. Je suis désolé. Faites des sorties médicales pour situer l'opinion, pour dire que, ah, voilà, on vous a fait du mal. Mais dans ce mal, vous avez profité aussi. Mais actuellement, là, essayons de nous comprendre, essayons pour trouver des solutions et de faire la politique gagnante-gagnante. On ne va plus exploiter vous aussi, vous n'allez pas courir et mourir dans la mer comme des chiens, quoi. Il va falloir que la France, les autorités françaises sortent pour nous éclaircir, pour que d'accord. Cette affaire de coup d'État, tout ça, que ça s'arrête, quoi.
D'accord. Merci à vous. Allô? 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 Allô, un auditeur en ligne. Allô, oui, bonjour.
Oui, c'est Johannes.
Monsieur Johannes, on vous écoute.
Oui, je dis bonjour à SAF. Ça fait plaisir de le retrouver dans cet exercice. Et on aimerait le retrouver dans cet exercice plus souvent. Écoutez, moi, je vais m'adresser au chef d'État africain. D'abord, on voit Macron qui gesticule de tous les côtés par rapport au Niger. Et alors que c'est le même monsieur qui a soutenu le fils d'Ebi pour s'installer, et après ce monsieur a commencé à massacrer sa population, on ne voit pas Macron sur ce terrain. Aujourd'hui, Macron commence à pousser des langues de vipère, il n'arrive plus, il a perdu sa langue, je dirais plutôt, par rapport au Gabon. Je vais demander au chef d'État africain si, avec cette affaire d'ambassadeur qui se passe au Niger, si Macron fait des pieds et des mains jusqu'à ce qu'il cherche à intervenir, j'ai l'impression qu'il cherche des arguments pour dire qu'on a touché à la vie d'un citoyen français, donc il va envoyer des forces armées au Niger. Si les chefs d'État africains se taisent là-dessus, je vais leur dire que c'est le peuple même qui va leur faire des coups d'État cette fois-ci. Ça ne sera plus des militaires, mais c'est le peuple même qui va se lever contre eux. Parce que ce n'est pas normal qu'on élise des dirigeants qui se laissent comme des marionnettes sous la coupole d'un autre chef d'État. Qu'ils arrêtent ça. Pendant que Macron est en train de bavarder chaque jour sur le Niger, eux, quand ils se réunissent, c'est pour dire nous sommes prêts à envoyer nos militaires au Niger. Il n'y a que ça qui les intéresse. Merci.
D'accord, merci à vous. 22 21 33 74 22 20 19 68 98 87 78 37. Allô?
Allô, mes frères, bonjour.
Oui, bonjour.
Ah, monsieur Sass, bonjour.
Ah, le micro est fermé, allez-y.
Ok, là. Bon, vous voyez, moi j'allais donner raison à Donald Trump qui disait que les pays de la merde, là, vous voyez. Ça dit tout, dans la vie, il faut finir avec la tête haute. Ça veut dire qu'il faut que notre finition plutôt soit meilleure que le début. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Quand on m'a envoyé l'image où l'argent a été trouvé dans les sous-sols des ministres, même l'enfant de Ali Bongo qui a 4 milliards, tout ça là, mais est-ce que vous ne voyez pas que ces gens-là dépassent le diable? Hein? Au moment où les gens trouvent au moins à manger, ils ne trouvent pas. C'est tout comme au Togo. Aujourd'hui, au Togo, les gens en ont plein.
Allô?
Ouais, mais vous avez coupé, je crois.
Non, c'est pas coupé.
Comme j'ai appelé le Togo. Mais non, ça veut dire qu'il faut qu'on se dise la vérité. Vous voyez, non? C'est que, étant un homme, nous devons savoir tout ce que nous posons comme des appuis et retours. C'est-à-dire que nous ne nous ignorons pas. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Quelqu'un qui est un président, je le dis souvent, que si tu es un chef d'État, ce qui...
Je crois que... Voilà, la ligne n'est pas bonne, ça coupe. Nous allons prendre un autre auditeur. Allô? Allô? Allô?
Et allô?
Oui, le dernier auditeur, on vous écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Salut, Sass Gaou. Surtout, j'étais à l'erreur quand je suivais Radio Lumière. C'est grâce au directeur français d'anglais. Vraiment, il a une rhétorique. Mais aujourd'hui, je ne sais pas où le placer. C'est un professionnel. Je ne sais pas, chaque fois, il n'a qu'à devenir invité ou bien animateur.
D'accord. Il est beau partout. Il est à l'écoute.
Et il a un carton vert pour ça.
D'accord.
Et il soulevait le cas de passage de TVT, ce qu'on fait, quoi. Et on ne parle pas de...
Du coup d'état du Gabon.
Ah, évidemment. Il a parlé, je me suis souvenu de mon papa à son âme. Il disait que tout ce qui se passe à la télévision togolaise, il préfère suivre les avis du décès. Là-bas, au moins, on ne peut pas tromper. Le reste, c'est de la publicité. Bon, par rapport à M. Yurika qui disait que c'est le Niamey qui a fermé le premier, la frontière. C'était passé en 2005 ici, Makiaba s'est retrouvé au Bénin. Donc, c'est comme ça que ça se passe quand il y a coup d'État. C'est pour dire qu'au Togo aussi, il y en avait. Et quand les choses vont bien, on ouvre les frontières. Mais aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui a encore fermé plus la frontière. Je mets quiconque au-dessus, même Macron lui-même. Il n'a qu'à tenter de changer la Constitution parce que la démocratie le permet, de modifier la Constitution en mettant le compteur à zéro pour voir s'il va faire 24 heures au pouvoir. Ce n'est pas l'Afrique seule qui a des problèmes. Donc, eux aussi, en Europe, ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas le faire parce que c'est consigné arrêté, qu'on ne peut pas le faire. Donc, si les gens se permettent de mettre les compteurs à zéro, et les militaires viennent, ils mettent les compteurs à zéro, pourquoi on va s'inquiéter? Donc, nous tous, nous sommes fils d'une même nation. Quand ça ne va pas, il y a les forces de l'ordre, donc on met de l'ordre, quoi.
D'accord. Merci. Merci à vous. C'est donc le dernier auditeur de ce jour. Nous allons refaire un tour de table pour recueillir vos réactions. Godson, que t'en manies.
Bon, on comprend que les auditeurs suivent effectivement l'émission. Il y a un qui a parlé de... Il a repris ce que Sassa dit concernant le fait que Radio Lomé et TVT n'aient pas relayé ce qui se passe au Gabon. Ce n'est pas seulement consubstantiel à notre pays. Je me rappelle, au temps fort de la guerre en Ukraine, c'est la France qui s'est permis d'interdire la diffusion de Russia Today. Personne n'avait crié. Mais quand c'était autour de RFI et France 24 et Odette interdit d'émission, dans certains pays africains, il y a eu des envolées lyriques comme si c'était un crime de lèse-majesté. Donc c'est juste pour dire que même si il y a un gouvernement dans un pays et que ce pays est ami avec d'autres, qu'il y a des choses qui se passent dans ces autres pays, qu'on ait cette humilité, ce courage de laisser les médias informer les peuples, puisque ce sont les peuples qui ont donné pouvoir à vous qui êtes là.
D'accord, merci voilà. Godson. Ambroisine Mémédé.
On a compris avec divers intervenants que tous sont contre le coup d'État. Et les militaires n'ont qu'à rester dans les casernes, c'est ce que j'ai aussi noté. Et là, déjà que on a aussi compris que les coups d'État ne nous apportent rien. Maintenant, comment faire pour empêcher? C'est là où moi j'appelle les élites à réfléchir, à sortir et à prendre des décisions. Sinon, on ne fera que déplorer. Déplorer tout le temps. Je ne pense pas que ce soit ça qui nous permettra d'avancer. Il faut à un moment donné hausser le ton. S'il y a des tests à revoir, il faut revoir. S'il y a des décisions à prendre, il faut prendre. Mais il faut vraiment agir. Il faut agir véritablement. Sinon, on passera tout le temps à déplorer.
D'accord. Puisque vous avez encore le micro, nous allons revenir après à Godson. Si vous avez un carton...
Eh bien, mon carton, ça va être un carton rouge hein, à l'endroit de ceux qui font ces coups d'État, que ce soit coup d'État militaire, que ce soit coup d'État...
constitutionnel.
Voilà, constitutionnel, toute voilà. forme de coup d'État. On n'en a vraiment pas besoin. D'accord. Comment font les pays du Nord pour qu'on ne parle pas de ces problèmes-là chez eux? Essayons de voir.
D'accord, merci. Sas.
Fousséni, c'est juste te dire merci hein, pour m'avoir invité à ton plateau aujourd'hui, de retrouver les amis ici, hein, de par le monde. Et j'ai la satisfaction que le club La Presse vit et survit aux individus que nous sommes.
D'accord.
C'est de là que je vous adresse un carton de cœur, un carton de gratitude, de félicitations
merci
à
beaucoup.
Vous. Je vous prie de partager ce carton de cœur de gratitude avec le corps médical. Ils se comprennent. Et puis, si tu permets, je voudrais décerner un carton vert à un grand homme, à un grand Africain qui nous a quittés samedi.
D'accord.
Il s'agit de Salif Keita Domingo, l'un des plus grands virtuoses
l'international,
du ballon
voilà.
que le monde ait jamais connu. Mais il a eu le malheur de faire sa carrière dans les années 60 et 70, à un moment où le football n'était pas encore business. Mais malgré son grand talent, il est resté quelqu'un de modeste, d'humble jusqu'à sa mort. Tout cela inspire ceux de celles de ces grandes vedettes-là qui, parce qu'ils se sont enrichis par le football, hein, oublient souvent qu'ils sont de simples mortels.
D'accord. Donc, carton vert.
À Salif Keita, Domingo.
À Salif Keita, d'accord. Éric Johnson.
Oui. Bon, ce qui me dérange, c'est la définition du coup d'État. On parle de coup d'État constitutionnel, de coup d'État...
Électoral
et tout ça. Moi, ça me dérange parce que quand je prends la définition de coup d'État dans les dictionnaires, ce que je trouve, c'est le renversement d'un pouvoir établi. Et donc, quand on parle de coup d'État, je voudrais plutôt qu'on parle d'autre chose que coup d'État constitutionnel, institutionnel. Mais il y a coup d'État militaire. Un coup d'État militaire, c'est les militaires qui renversent un pouvoir civil. Ça, c'est ma définition à moi.
D'accord.
Et donc, il y a un auditeur qui disait que... moi, je disais que c'est les Nigériens, les Pushits qui ont fermé la frontière premièrement. Mais c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas inventé l'information. C'est ce qui s'est passé. Et il donne l'exemple du Togo. Mais évidemment, il y a plusieurs exemples à donner. Et donc, je ne vois pas où se trouve le problème. Mais je crois qu'il faut véritablement réfléchir à notre démocratie. Notre démocratie aujourd'hui, est-ce que ça ne nous crée pas plus de problèmes que de nous apporter des solutions? Parce que c'est dans cette démocratie-là qu'on a beaucoup de coups d'État. En moins de 5 ans, vous avez vu le nombre de coups d'État dans la sous-région. Et c'est tellement que ce n'est pas fini. Hein.
C'est un autre débat.
Non, non, c'est pas un
c'est
autre
débat. C'est la fin. C'est la fin. J'ai besoin de parler.
Non, terminez avec votre carton.
Non, je donne un carton vert au ministère des Travaux publics qui a véritablement pratiqué le budget et dédié aux gens. 100%, ça veut dire que tous les indicateurs ont été quand même bien faits.
D'accord.
Donc, c'est important de le dire. Lorsque vous êtes dans un budget programme, il faut véritablement le pratiquer.
D'accord. Donc, carton vert. Isidore Akolo.
Non, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie des coups d'État. Hein. Et pour Eric, je dis que les concepts évoluent. C'est évolutif. Si on parle de coups d'État, c'est le renforcement d'un ordre établi. L'ordre peut être institutionnel, constitutionnel. Et la fois dernière, vous avez vu que le poutiste gabonais avait dit qu'il y a un coup d'État électoral. Avant, c'est ça qui l'a poussé à venir.
Donc, ce n'est pas un autre débat.
Autant on combat les coups d'État militaires, il faut combattre aussi les autres formes de coups d'État. C'est tout ce que nous disons.
D'accord.
On n'est pas là pour applaudir à rompre les phalanges les coups d'État militaires. Mais comprenez que s'il y a d'autres formes de coups d'État, il faut aussi les combattre. Mon carton, quelqu'un m'a dévancé, c'est pour décerner le carton vert à SAS, et qui se retrouve de l'autre côté du micro,
d'accord,
et qui a bien assumé, parce que il nous privait de parole aujourd'hui.
D'accord.
Je le vois.
Carton vert à Innocent Sascaou.
Je veux le revoir encore à ma gauche. En train de me dire que ça va.
D'accord, bientôt il sera là.
Et le carton vert, je le détiens du carton qu'il a donné à Saniquita, lui faire comprendre qu'il y avait un certain Mathia qui avait aussi fait Saint-Étienne. Et que c'est Saniquita qui tenait ses crampons et l'aidait à venir. Donc, il s'est inspiré d'un Togolais qui s'appelle Mathia, que beaucoup de gens ne connaissent.
D'accord,
pas.
Merci à vous, Isidore Akolo du journal Actu Express, Ambroisine Memédé de l'agence de presse Savard News, Eric Johnson du journal L'Union. Ah, j'ai oublié Godson.
Heureusement pour toi.
Ah, vraiment, rapidement le carton.
Parce que mon carton, c'est à l'opposé de ce que Eric a décerné à Dame Zouiratou.
Oui, rapidement.
Il suffit de sillonner les voies secondaires de notre capitale. Ce n'est pas agréable. Elle a 100% au niveau de l'exécution du budget en lien avec le genre. Mais elle a un carton noir par rapport aux pistes, aux voies secondaires du pays.
D'accord, carton noir. Merci à vous, Godson Ketomania du journal Liberté. Merci à la technique, il y avait Thomas Datevi, mise en ligne Géraud Akoucha. Je suis Fousseni Saïbou. À très bientôt.